Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, RSA, zéro chômeur, le travail, y'a que ça de vrai. Le RSA aura bientôt 10 ans. Le 1er juin 2009, le revenu de solidarité active, dispositif imaginé par Martin Hirsch, est généralisé à l'ensemble du territoire. Il remplace le RMI et s'accompagne d'une double promesse. Aider ceux de ses bénéficiaires qui sont au chômage à retrouver plus facilement un emploi et inciter ceux qui en ont déjà un, mais avec des revenus très modestes, à ne pas arbitrer en faveur d'une inactivité supposée plus rémunératrice. Alors, comme tous les dispositifs imaginés en France dans le cadre du chômage de masse, celui-ci n'a pas entièrement convaincu. L'accompagnement vers l'emploi laisse à désirer. Le montant du RSA auquel est venu s'ajouter la prime d'activité reste à des niveaux très bas. Tandis que celui du non-recours, le niveau, reste élevé, puisqu'un bénéficiaire potentiel sur trois n'en ferait pas la demande, soit par ignorance, soit du fait de la complexité. Il y a 2 ans, le mouvement ATD Quart Monde lançait une expérimentation en essayant de renverser la logique. L'expérimentation, c'est territoire zéro chômeur. Le principe, s'appuyer sur les compétences des demandeurs d'emploi et sur les services non fournis dans une zone donnée pour créer des postes financés avec le montant des aides sociales. Une expérimentation qui a vocation à être étendue. Alors RSA, zéro chômeur, le travail, y'a que ça de vrai. C'est le sujet du soir en compagnie de 3 invités. Daniel Le Guillou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le vice-président de l'entreprise à but d'emploi Actipol Thiers, voilà, qui est une ville du Puy-de-Dôme. Une entreprise à but d'emploi, brièvement, qu'est-ce que c'est?
L'objectif, c'est de créer de l'emploi. Le premier objectif, c'est de créer de l'emploi pour les chômeurs de longue durée du territoire, rémunérés au minimum au SMIC. Et sur un CDI, voilà, beaucoup de révolutions par rapport à ce qui se passe actuellement.
Ouais, on va évidemment avoir l'occasion de développer un petit peu ce que vous faites dans cette entreprise. Vous êtes par ailleurs chargé de la capitalisation au sein de l'association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. C'est donc cette initiative lancée par ATD Quart Monde à laquelle vous participez et qui fait l'objet d'un ouvrage qui a été publié il y a quelques semaines de cela aux éditions Quart Monde et édition de l'atelier. Vous l'avez coécrit avec Claire Hédon et Didier Goubert. Ça s'appelle Zéro chômeur. 10 territoires relèvent le défi. Pour discuter avec vous, Anne Hédou, bonsoir.
Bonjour.
Vous êtes économiste, maîtresse de conférence au CNAM, le Centre National des Arts et Métiers, membre des économistes atterrés. Vous avez publié, c'était en 2014, 5 ans après la généralisation du RSA, Apprendre de l'échec du RSA, la solidarité active en question. C'était un ouvrage que vous aviez coordonné avec Bernard Gommel. Notre 3e invité, il est au téléphone, c'est Stéphane Carcillo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le chef de la division emploi et revenus de l'OCDE. Vous êtes économiste, comme Anne Hédou. Et vous êtes un des auteurs, de la note du Conseil d'analyse économique et qui s'intitule « Mieux lutter contre la pauvreté par des aides monétaires ». Et c'est cette note qui a inspiré le plan pauvreté présenté par le gouvernement en septembre dernier. Plan pauvreté au cours duquel il a notamment été fait mention du revenu universel d'activité. C'est peut-être quelque chose dont nous aurons l'occasion de parler ce soir. Mais commençons par cet anniversaire, les 10 ans du RSA. Est-ce que ça a été un changement important de philosophie à l'époque, à Anne Hédou, c'est-à-dire le RSA, le A d'activité qui remplace le I d'insertion qui se trouvait dans le I de RMI?
Alors en tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté par le haut commissaire aux solidarités actives, Martin Hirsch, pratiquement une révolution, hein, c'est-à-dire l'idée que avec ce nouveau dispositif d'activation des allocataires de minima sociaux, on allait enfin sortir énormément de personnes du non-emploi et de la pauvreté. En réalité, ça n'était pas révolutionnaire, puisqu'il faut savoir que le RSA remplaçait 2 dispositifs antérieurs, le revenu minimum d'insertion et l'allocation de parents isolés, et que ces 2 dispositifs avaient déjà un système d'intéressement à la reprise d'un emploi, c'est-à-dire que quand les bénéficiaires reprenaient un emploi, ils pouvaient, pendant une durée limitée, combiner leurs revenus d'activité, en général une activité précaire, avec un complément issus de leur minimum social.
Le changement avec le RSA, c'est que la durée n'est plus limitée.
La durée n'est plus limitée et ça s'étendait, je dirais, à l'ensemble des travailleurs pauvres, c'est-à-dire y compris à des gens qui auparavant ne touchaient pas le RMI, hein, du moment qu'ils étaient en dessous d'un certain seuil. Sauf que effectivement, une partie de ces nouveaux concernés soit ne se savaient pas concernés, soit ne souhaitaient pas bénéficier d'un revenu de solidarité, soit trouvaient ça trop complexe. Et donc, on a eu effectivement un non-recours qui était très important. En tout cas, ça a été présenté comme une révolution et les évaluations ont montré qu'il n'y avait rien de révolutionnaire.
Alors, révolution ou pas révolution, le RSA, il y a 10 ans, Stéphane Carcillo?
Bah, c'était une réforme quand même très importante puisque ça c'était un objectif de rationalisation des premières allocations qui existaient avec le RMI et l'API, comme ça a été rappelé. Ça a été quand même une révolution parce que c'était la première fois qu'on mettait en place un système dans lequel il y avait systématiquement la possibilité de reprendre un emploi sans perdre du tout son allocation. Et ça, je pense que c'est vraiment le caractère révolutionnaire du RSA. Ça existait dans très très peu de pays. Ça existait aux États-Unis, ça existait au Royaume-Uni, mais ça prenait la forme, comme la France, d'un crédit d'impôt assez mal fichu, parce que perçu l'année suivante, une seule fois dans l'année, assez déconnecté des revenus. Et pour la première fois, on avait une prestation qu'on pouvait percevoir chaque mois, et quand on reprenait un travail, on continuait à percevoir, on avait la possibilité de continuer à percevoir un bout de cette prestation. Et je crois que c'est vraiment ça l'élément totalement novateur.
Daniel Le Guillou, le fait de ne pas y perdre en reprenant un emploi par rapport à ce que l'on peut toucher quand on est sans activité grâce aux différentes aides sociales, est-ce que ça c'est une préoccupation que vous rencontrez parmi le public avec lequel vous travaillez, vous ?
Oui, mais de manière plus générale, c'est pas le problème. Aujourd'hui, c'est pas la question, parce qu'on peut faire en fin de compte quatre observations sur le RSA qui expliquent d'ailleurs quatre spécificités de territoires zéro chômeur de longue durée. La première, c'est que le montant, c'est pas un montant décent pour vivre. 564 € permettent pas de vivre. C'est pour ça que dans territoires zéro chômeur de longue durée, bien nous proposons le SMIC au minimum de SMIC. La deuxième remarque, c'est que ça a eu un impact très faible en termes de reprise d'emploi. Pourquoi ? Pour une bonne simple raison, c'est un peu comme le droit opposable au logement. Il n'y a pas de droit opposable à l'emploi si on ne crée pas d'emploi. Et donc, dans territoire zéro chômeur de longue durée, nous commençons par créer des emplois. La troisième remarque, c'est le problème du non-recours. Et là encore, effectivement, 30%, vous l'avez souligné, c'est très important.
Sans des estimations, parce que c'est assez compliqué d'avoir des chiffres fiables, mais il y a justement eu un sondage de la CNAM, notamment la Caisse nationale d'assurance maladie, je crois que c'est elle. Hein.
C'est ça. Mais précisément parce qu'il y a un problème de non-recours, nous avons renversé la perspective. Et nous sommes attachés à l'exhaustivité, c'est-à-dire à proposer un emploi à tous les chômeurs, à toutes les personnes privées d'emploi durablement sur un territoire, non seulement celles qui sont inscrites auprès de Pôle emploi, mais également celles que maintenant on appelle les invisibles, suite au film que vous avez sans ou du récemment, et qui montre bien qu'effectivement, nous, on estime qu'il y a 20 à 30% de personnes qui sont en dehors des listes de Pôle emploi. Et ça, c'est vraiment dans les gènes d'ATD Quart-Monde que de vouloir faire un projet, non pas un dispositif, c'est la quatrième remarque, un projet pour les plus déshérités, les plus éloignés. Et dernière remarque, ce n'est pas un dispositif territoire zéro chômeur, contrairement au RSA, et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous ne voulons pas de généralisation. Parce que ça part fondamentalement, c'est la dernière caractéristique que je vais évoquer, de la mobilisation d'un territoire, et non pas d'une généralisation massive.
Alors voilà, quatre remarques qui vont notamment nous servir de trame pour la suite de la discussion jusqu'à 19h. Par rapport à la première que vous faisiez, Daniel Le Guillou, sur ce constat d'un niveau suffisamment bas, en tout cas trop bas pour le RSA. Hein, donc je rappelle, je crois que c'est les derniers chiffres qu'on a trouvés, 559,74 € par mois.
Pour
une personne isolée. C'est quelque chose qui, de toute manière, en soi, n'est pas suffisant pour ne pas inciter à retrouver un emploi, Stéphane Carcillo. Est-ce que, de ce point de vue-là, c'est-à-dire, est-ce que vous vous diriez que c'est une réussite ou un échec, le RSA qui devait inciter à retrouver du travail ?
Non, mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'abord, le montant brut du RSA, c'est un assez mauvais indicateur de ce que peut percevoir une personne ou une personne dans différentes situations familiales en situation de non-emploi, parce que s'ajoutent au RSA des allocations logement qui peuvent monter jusqu'à 200 euros, des allocations familiales qui se rajoutent également, et par exemple une personne effectivement qui loue son logement peut percevoir 700 euros ou un peu plus de 700 euros avec en cumulant les allocations logement et le RSA, et si cette personne a un enfant peut percevoir également des allocations familiales. Et donc c'est un montant qui devient relativement significatif par rapport au niveau du SMIC net qui est situé, je crois, autour de 1150 euros. Et donc c'est un montant qui est relativement significatif. Cela étant, c'est évidemment pas suffisant pour sortir de la pauvreté, mais ça réduit fortement les situations de grande pauvreté. Un des grands enjeux et une des grosses limites, effectivement, à l'augmentation du niveau de la prestation, c'est effectivement de garder un écart suffisamment fort entre le revenu non travaillé et puis le revenu du travail. Et la plupart des personnes qui sont au RSA, en général, ont assez peu de qualifications et donc peuvent prétendre à des emplois qui sont pour certains rémunérés au niveau du SMIC, et donc il faut qu'il y ait un écart, sinon il n'y a plus d'incitation au retour au travail. Cela étant, et je pense que ça a été souligné, une des limites au retour du travail, c'est pas uniquement les incitations monétaires, c'est aussi toutes les barrières non monétaires au retour à l'emploi. La France, avec le RSA et les allocations ciblées, est très forte dans la réduction de la pauvreté. Il faut le dire, la France a un taux de pauvreté qui fait partie des plus faibles des pays de l'OCDE. Cette pauvreté a assez faiblement rebondi pendant la crise financière grâce à notre système de prestations sociales.
Même si en soi, il est quand même élevé, hein. C'est 14%.
C'est 13%, ça fait partie des taux les plus bas des pays de l'OCDE. La France réussit à diviser par 3 son taux de pauvreté grâce à son système de protection sociale et d'impôts. Et de ce point de vue, elle est sur une sorte de courbe d'efficacité par rapport à ce qu'elle dépense et par rapport à ce qu'elle arrive à réduire la pauvreté. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui est positif. Maintenant, le problème, et je pense que le principal problème qui vient d'être soulevé, c'est les autres barrières. Qui sont les barrières et les autres limites qui génèrent de la pauvreté, c'est-à-dire l'incapacité à retrouver un emploi pour certaines personnes.
Alors on va revenir justement sur ces barrières, Stéphane Carcillo, mais j'ai vu que Anne-Edou commençait à prendre des notes pour réagir. Anne-Edou.
Oui, alors d'abord la première chose, c'est que les minima sociaux ne font pas sortir de la pauvreté, hein. On a beau ajouter tout ce qu'on peut ajouter, d'abord c'est des revenus différentiels, c'est-à-dire que ils complètent les revenus du foyer jusqu'à un certain niveau qui est défini en fonction de la composition du foyer. Il faut savoir que en moyenne, les foyers allocataires du RSA touchent 496 euros par mois. Hein, ce qui est donc très peu, hein. C'est vraiment une logique de complément de revenus. Et puis pour les foyers allocataires de la prime d'activité, c'est 174 euros par mois. Donc, on n'a pas un revenu décent ni qui permet de vivre décemment avec ses revenus. Et je pense que il n'y a pas à se féliciter du taux de pauvreté de la France. On est dans un pays riche, donc 14% de pauvreté, c'est beaucoup trop dans un pays riche. Surtout si on s'intéresse à certaines catégories, les familles monoparentales, plus de 30%, plus d'un tiers sont pauvres. Les chômeurs, plus d'un tiers également sont pauvres. Et effectivement, on a depuis des années des politiques sociales et des politiques de l'emploi et des salaires qui visent à faire en sorte que on ait un écart important entre ce qu'on gagne en travaillant. Quand on sait que le SMIC a très peu augmenté sur le long terme, c'est pas toujours beaucoup. Et puis, ce qu'on perçoit quand on touche des prestations sociales.
Mais on peut comprendre justement cette logique, oui. Anne-Edou, qui est de dire, si on gagne, si on peut gagner autant, ou en tout cas presque autant, en ne travaillant pas qu'en travaillant, ça va peut-être inciter un certain nombre de personnes à ne pas travailler.
Oui. Alors, juste, la conséquence de cette politique, ça a été que les minima sociaux ont stagné sur le long terme. Hein. Et donc, il y a eu un décrochage entre le SMIC et les minima sociaux, qui sont finalement bas et qui contribuent à l'augmentation des inégalités. Et puis, le deuxième problème, c'est que en fait, le problème des allocataires de minima sociaux, comme celui des chômeurs et des chômeurs de longue durée, c'est pas le découragement. Hein. On a des enquêtes enquêtes depuis très longtemps qui montrent que les allocataires de minima sociaux travaillent, y compris quand ils ne gagnent pas d'argent à travailler, et qu'ils déclarent s'en porter mieux, parce que ça leur ouvre des perspectives d'amélioration. Donc il n'y a pas de blocage sur la désincitation monétaire à travailler. On a, au contraire, c'est des discours politiques qui portent ça, qui laissent penser que le problème est là, alors que le problème principal, ce que vous avez dit, monsieur, c'est l'insuffisance des emplois. C'est-à-dire que la première barrière à l'emploi pour les allocataires de minima sociaux ou pour les chômeurs, c'est le fait qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Pas d'emploi qui puisse occuper pour des raisons d'horaire, par exemple, pour les mères de famille monoparentales. Et de ce point de vue-là, je trouve que la démarche zéro chômeur est très intéressante. Parce des besoins. Oui. De ces personnes privées d'emploi.
Justement, je vais redonner la parole dans un instant à Daniel Le Guillou, mais moi je suis assez surpris de voir, parce que c'est pas la première fois que je fais une émission qui est consacrée à ces questions, et notamment des incitations ou des désincitations monétaires par rapport au fait de retrouver un emploi, et j'ai l'impression que les économistes n'arrivent pas à se mettre d'accord et à pouvoir apporter des preuves irréfutables dans un sens ou dans l'autre sur les effets ou l'absence d'effets justement de ces minima sociaux sur le fait de revenir à l'emploi. Donc ça veut dire quoi? On est dans la, comment dire, d'études irréfutables en la matière, Anne Hédoux?
Ah si, en fait, il y en a plein des études. Je veux dire, je pense que parler de désincitation à l'emploi à propos des prestations sociales, ça relève de la foi. C'est pas, il y a aucun élément de preuve. Et je pense que la meilleure preuve, c'est que les évaluations du RSA, elles ont montré que l'impact sur le taux de retour à l'emploi de ce dispositif, c'était zéro. Il y a eu zéro impact sur le taux global de retour à l'emploi. Donc si c'était un problème de désincitation, ce serait pas ça.
Juste une courte réaction de Stéphane Carcillo.
Ça mériterait plus qu'une courte réaction, parce que ce que vient de dire Anne Hédoux, c'est vraiment absolument ahurissant de la part d'un économiste de dire des choses pareilles. Il y a énormément d'évaluations qui ont été faites qui montrent qu'effectivement les personnes qui sont sans emploi sont extrêmement sensibles au niveau de remplacement de leurs revenus, et que lorsqu'on se rapproche de taux de remplacement de 70, 80, voire 90%, c'est-à-dire un revenu sans travailler qui est proche de 90% de ce qu'on aurait si on travaillait, on a de très fortes désincitations au retour à l'emploi. Donc c'est vraiment assez consternant d'entendre quelque chose comme ça de la part de quelqu'un qui se prétend être un économiste. Ça, c'est le premier point.
Ça, c'est pas très gentil pour Anne Hédoux, quand même, ce que vous dites.
C'est vraiment assez consternant, et d'ailleurs, c'est même atterrant, pour reprendre l'expression des économistes atterrés. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que évidemment, on peut pas se réjouir d'avoir un taux de chômage de 13% en France. En revanche, on peut se réjouir d'avoir un système de protection sociale qui permet d'avoir un taux de pauvreté de 13% en France. En revanche, on peut se féliciter d'avoir un système de protection sociale qui permet d'avoir un des taux de pauvreté les plus bas d'Europe. On est au niveau des pays qui sont les pays du nord de l'Europe en système en matière de protection sociale. Il faut le dire, il faut le répéter. On a un système qui aujourd'hui est très protecteur. Très protecteur. On a eu une revalorisation de la prime d'activité. Donc, cette prime d'activité, c'est ce qui a remplacé le RSA chapeau, cette partie complémentaire qu'on perçoit quand on travaille, qui aujourd'hui fait qu'on a de fortes incitations à reprendre un travail. Grâce à ce système, on a à la fois une bonne protection, aujourd'hui un bon équilibre entre la protection contre la pauvreté. Je l'ai dit, ce système de protection sociale divise par 3 le taux de pauvreté, donc voilà, dire qu'il n'a aucun effet sur la pauvreté, c'est faux. Je vous renvoie vers les études justement du Conseil d'analyse économique ou les publications de l'OCDE sur ce sujet qui sont extrêmement fortes. La France fait partie des pays où la réduction du taux de pauvreté grâce au système de protection sociale dont le RSA est un élément central est la plus forte. Et en même temps, grâce aux incitations au retour à l'emploi qui sont efficaces pour inciter les gens à reprendre un job lorsqu'ils le peuvent, on arrive effectivement à des taux finalement de ce qu'on appelle de taxation lorsqu'on reprend un emploi, de taux marginaux de taxation. C'est un point un peu technique pour expliquer combien on perd.
C'est un point un peu technique, pardonnez-moi Stéphane Carcillo, comme je vous avais demandé vraiment une courte réaction, et pour ne pas non plus que les autres invités, en particulier Daniel Le Guillou, soient totalement absents de notre discussion. Voilà, si vous si vous permettez, je vous coupe un petit peu, d'autant que Daniel Le Guillou voulait réagir depuis un petit moment à ce qui se dit ce soir.
Oui, il y a les évaluations, les études économiques, effectivement, qui évaluent donc des politiques. Et puis, il y a l'expérimentation. Et l'expérimentation, elle nous montre aujourd'hui, et je vous incite à aller voir le documentaire de Marie-Monique Robin, qui est sorti sur M6 et qui va sortir au cinéma au mois de novembre prochain, ou de lire les idées fausses sur la pauvreté et sur les pauvres, qui est publié par ATD Quart Monde, pour voir qu'effectivement, quand on donne la parole aux gens concernés, eh bien, ils veulent travailler. Et c'est ce qu'on montre depuis 2 ans à travers l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Dans les 10 territoires concernés, il y a maintenant 800 personnes qui ont été embauchées. C'est-à-dire 80 personnes par entreprise à but d'emploi. À Thiers, il y en a 75. Concrètement, c'est ça. Ça veut dire ça. Et donc, ça veut dire qu'on montre bien que, et il y a des taux de non-recours, pour le coup, enfin, de non-volontariat, puisque ce sont des volontaires, qui sont très faibles. On l'a mesuré concrètement sur un territoire, c'est 4 à 5 % le taux de non-volontariat. Donc là, on voit bien que, au-delà de tout dispositif incitatif qui marche ou ne marche pas, moi, j'entrerai pas dans le débat parce que je suis pas économiste, mais en tout cas, on voit bien que, concrètement sur le terrain, quand on propose un emploi de qualité, un contrat à durée indéterminée, qui est quand même l'exception aujourd'hui, il faut le rappeler, c'est 85 % sont des CDD de courte durée. Un contrat donc de qualité rémunéré au minimum au SMIC, on a une adhésion très forte des populations concernées. En tout cas, c'est ce que nous constatons sur les 10 territoires expérimentaux.
Alors ça vaut peut-être justement le coup, Daniel Le Guillou, de réexpliquer en quoi consiste cette expérimentation qui fonctionne sur un nombre de territoires limités, qui part de quel principe ? Donc justement que les gens veulent travailler, qu'ils ont des compétences, mais que ces compétences-là ne se retrouvent pas dans les offres d'emploi qui peuvent exister sur certains territoires, c'est ça ?
Alors d'abord, à l'origine, c'est 1993, une idée de Patrick Valentin, rejoint en 2010 par ATD Quart Monde. Voilà. Et donc la loi de 2016 qui a été portée par le député Laurent Guillaume et quelques autres députés. À l'époque, il y avait 4 territoires candidats et 4 députés pour porter la loi. Elle a été votée à l'unanimité. Donc on est sur 10 territoires expérimentaux aujourd'hui, avec plusieurs reversements de perspective, effectivement. La privation d'emploi. On ne parle pas de chômeurs longue durée, on parle de privation. Alors, le titre est raccourci, mais on parle de privation durable d'emploi. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est sur une privation. On n'est pas sur. C'est pas une option. En l'occurrence, c'est pas un choix. Contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est pas un choix de ne pas vouloir travailler. Ça, c'est la première chose. Donc, on va au-delà des listes de Pôle emploi et on s'adresse à tout le monde. Et on vise l'exhaustivité. On ne sera satisfait que si on a proposé un emploi à toutes les personnes concernées du territoire. Donc, c'est ça aussi un grand renversement sur cette affaire. Le troisième renversement de l'opération, du projet, c'est la supplémentarité. On ne crée des emplois que s'ils ne détruisent pas des emplois par ailleurs sur le territoire. Ce qui me conduit à dire qu'il y a effectivement la création d'un comité local sur le territoire qui est le juge de paix de cette supplémentarité.
Et par exemple, Actipol Thiers, vous proposez quel type d'emploi ?
De l'économie circulaire. Alors là, on est dans la tradition de l'économie sociale et solidaire. Depuis 25 ans, on n'invente rien. Simplement, on le fait dans les territoires où peut-être c'était pas fait. Nous, on fait des couches lavables, on fait tout un tas de produits autour du reconditionnement informatique, autour de l'économie circulaire. On fait de l'économie solidaire, du taxi solidaire, du garage solidaire, du déménagement solidaire, du lien social solidaire, toute activité qui ne sont pas prises en charge et qui ne sont pas révélées par le secteur marchand. Et donc, nous, on les prend en charge et on les révèle, on les exprime et on les satisfait. En tout cas, on essaye de les satisfaire.
Anedou, la première incitation pour qu'il y ait des retours à l'emploi, est-ce que ça n'est pas qu'il y ait des emplois, justement, qu'il y ait une offre d'emploi suffisante ?
Si, bien sûr, je crois que c'est ça le problème majeur, enfin on le sait depuis des années. Donc de ce point de vue-là, l'approche territoire zéro chômeur, elle est intéressante. La question, ça serait comment on pourrait étendre davantage cette politique, parce qu'on voit bien qu'on est sur des petits territoires avec cette approche territoriale qui vise vraiment à répondre aux besoins du territoire en même temps que répondre à celui des personnes privées d'emploi. Et la question, c'est comment on peut étendre ce type de mesure à d'autres territoires.
Et là, c'est peut-être parce que les territoires sont limités que ça fonctionne et que si oui, on les étendait, sûr. Ça serait beaucoup plus compliqué.
Alors, mais ça pourrait aussi s'étendre à d'autres territoires, limités eux aussi. Hein. C'est-à-dire, maintenant, ça demande des ressources. Hein. Et je crois que là, c'est la difficulté à laquelle se heurte ce type d'initiative, c'est que les ressources des territoires, elles sont limitées et elles le sont d'autant plus que là où il y a eu des vraies politiques d'austérité en France, c'est bien du côté des collectivités territoriales, hein, qui ont vu d'un côté leur dotation de l'État baisser et de l'autre, les besoins augmenter, puisque si on prend les prestations sociales, le RSA, RSA, bah, par exemple, l'aide sociale à l'enfance, c'est les départements. Donc je pense que il y a une contrainte très importante des territoires de ce point de vue-là. Mais c'est certain que partir des besoins et y répondre en créant des emplois, ça semble être une approche intéressante. Et c'est des choses qui se sont déjà faites dans des politiques de relance antérieures. Je dirais qu'aujourd'hui, on a un besoin supplémentaire qui est environnemental. Voilà.
Alors Daniel Le Guillou et ensuite Stéphane Carcillou.
Oui.
Carcillou, pardon. Daniel Le Guillou.
Oui, il y a un point qu'on n'a pas évoqué. Il y a l'évolution du marché de l'emploi qui nous conduit quand même à nous renforcer dans cette politique, dans ce projet. Il y a la polarisation, mais Stéphane Carcillou en parlera mieux que moi puisqu'il y a une étude de l'OCDE qui est parue récemment sur le sujet et qui montre bien l'évolution du marché de l'emploi. Moi, je voudrais parler des fractures territoriales. Parce que quand on parle de taux de chômage général de 9, 10%, peu importe, on ne voit pas la réalité des territoires. Aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il y a une étude de France Stratégie qui est parue il y a 2 ans qui montre bien que au-delà de 500 000 emplois, au-delà de 500 000 habitants, les zones urbaines ne créent plus d'emplois en solde net. Donc ça, c'est un point important. Et quand on est dans des villages enclavés, dans des situations un peu difficiles, eh bien effectivement, il ne se crée plus d'emplois. Donc et la mobilité, le frein à la mobilité, il existe également de manière très forte. Et c'est en ça que l'analyse qu'on peut faire de l'échec des politiques de l'emploi depuis 25 ans à résoudre le problème du chômage de longue durée, en tout cas pour ce problème-là, c'est qu'elles ont été générales. Les exonérations de cotisations sont des mesures générales. Elles s'appliquent à tout le monde de manière indifférenciée. Jusqu'à 2,5 du SMIC avec le CICE. Ça coûte 40 milliards et on voit le résultat, ça fait des emplois à 60 000 euros. Les emplois créés
bien
par...
plus, 200 000 euros par emploi ouais, et par an, par emploi créé par an.
Je parlais des exonérations de cotisations sans CICE. CICE, c'est un peu plus élevé, effectivement. La TVA sur la restauration, la TVA sur les petits travaux, c'est pareil, c'est 160 000 euros. Voilà. Donc, et en plus, elles n'ont pas résolu le problème du chômage de longue durée. Ça nous montre que si on veut essayer autre chose, eh bien, il faut donner la main au territoire. Et il faut effectivement partir de la mobilisation du territoire et des ressources territoriales pour le faire. Et partir des compétences des personnes concernées, donc des chômeurs, des personnes privées d'emploi. C'est ça, en tout cas, ce que nous voulons expérimenter, c'est partir des compétences du territoire et des chômeurs de longue durée.
Être dans l'expérimentation plutôt que dans des programmes nationaux, Stéphane Carcillou, est-ce que c'est la bonne méthode selon vous? Et question subsidiaire, qu'est-ce que vous pensez de la philosophie de ce programme, de cette expérimentation de territoire zéro chômeur de longue durée?
Je pense que c'est très bien d'être dans l'expérimentation de différents types de programmes. Et effectivement, expérimentation veut aussi dire évaluation, donc c'est important de se soumettre aussi à un processus d'évaluation qui consiste à regarder par rapport à des territoires comparables si effectivement on a augmenté l'emploi pour ces personnes-là sans détruire des emplois dans les zones adjacentes où le programme n'intervient pas. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense que pour revenir sur effectivement qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour réduire la pauvreté et augmenter l'emploi, et pour faire un lien avec la question de la polarisation, il me semble qu'aujourd'hui un des gros problèmes qui explique une part importante de la pauvreté qui reste dans la plupart des pays, notamment en France, c'est que il y a des vulnérabilités qui n'apparaissent finalement que pendant quelques mois pendant l'année, parce que les gens ont un emploi, c'est un emploi instable. C'est un emploi en CDD qui est entrecoupé de périodes de chômage ou d'inactivité. Et finalement, le processus pour aller demander une aide sociale peut paraître trop lourd, trop compliqué, trop complexe. Et il me semble que de ce point de vue, qu'une des voies, je pense, pour essayer d'aider ces personnes et de continuer à faire baisser la pauvreté, c'est de lutter contre ces périodes finalement de non-activité où il n'y a aucune aide. Et ça, pour ça, il faut en passer par une systématisation du versement du RSA, une automatisation si possible, une très grande simplification du système pour que, de manière quasi automatique et extrêmement simple, simplement en déclarant ses revenus ou ses non-revenus sur un mois, on puisse être aidé pendant ces quelques semaines où on n'a pas de travail. Je pense que c'est un point qui est extrêmement important à rappeler, et c'était un des axes de la note et des recommandations qu'on faisait dans cette note du Conseil d'analyse économique. Le deuxième point qui me semble important, c'est que aujourd'hui, avec la polarisation des emplois et les transformations technologiques qu'on a, il y a un double défi. Il y a un défi des compétences et il y a un défi du point de vue de la géographie. Un défi des compétences parce que les emplois qui se créent se font énormément soit dans des emplois extrêmement qualifiés et techniques, c'est la polarisation vers le haut, soit vers des emplois qui sont des emplois de service, tournés vers les personnes. sont souvent des emplois qui sont peu qualifiés, mais pas toujours. Il y a parfois des emplois qui sont moyennement qualifiés dans ce domaine et qui nécessitent certaines compétences. Et pour ça, c'est pour pouvoir occuper ces emplois, il faut avoir ces compétences et il faut de la formation. Et une des barrières au retour à l'emploi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas uniquement une question d'incitation financière, c'est aussi des problèmes de compétences. Et là, il y a un gros enjeu de formation et d'accompagnement. Et puis, il y a aussi un problème de mobilité géographique, et ça rejoint ce qui vient d'être dit. Il y a effectivement des bassins d'emploi où l'emploi diminue. Il est extrêmement dur de lutter contre ces baisses, ces chutes d'emploi. Il faut des programmes qui soient effectivement des expérimentations locales. Il faut parfois aussi favoriser la mobilité. Et ça, cette mobilité, ça passe soit par une mobilité géographique, soit par aider les personnes à se transporter tout simplement vers les villes où il y a de l'emploi. Et ça nécessite aussi des solutions pour libérer du temps. On l'a dit tout à l'heure, un des gros enjeux et un des gros problèmes de pauvreté en France, ce sont les familles monoparentales, qui avec les jeunes ont des taux de pauvreté plus élevés qu'ailleurs que d'autres groupes. Et pour les familles monoparentales, un des gros sujets, c'est à la fois la mobilité et la garde d'enfants.
Voilà, et cette mobilité, quand on est confronté à d'importantes difficultés, c'est quelque chose qui est compliqué aussi à mettre en place. C'est-à-dire l'insertion professionnelle avec tous les autres problèmes qui peuvent se poser en matière de logement, d'éducation, justement des enfants, de transport. C'est évidemment des difficultés qui s'accumulent et qui nécessitent peut-être aussi un accompagnement global. J'ai vu d'ailleurs que c'était un des axes qui était proposé dans le plan pauvreté du gouvernement, c'est-à-dire que tout puisse... Enfin, les personnes puissent être accompagnées simultanément sur ces différents sujets. Mais voilà peut-être un point sur lequel vous allez pouvoir être d'accord, Stéphane Carcillo et Anne Edou, sur l'automatisation, par exemple, du versement du RSA, ce qui au moins contribuerait, a priori, à limiter considérablement le non-recours.
Alors... Tout dépend comment c'est fait. Disons que si on revient un peu en arrière, quand la prime d'activité a été mise en place, il y a eu ce débat déjà. Est-ce que on en fait un crédit d'impôt, donc quelque chose d'automatique pour les personnes qui déclarent leurs revenus, ou bien est-ce que on en fait un droit acquérable comme le RSA, donc remplir des formulaires assez complexes, parce que surtout quand on a un emploi précaire, parce que la prime d'activité, elle est calée au plus près des revenus d'activité. Et la décision a été prise d'en faire un droit acquérable, donc non automatique, au motif qu'en faisant un droit automatique, ça coûterait trop cher. Donc, c'est vrai que...
C'est-à-dire que le non-recours, d'une certaine manière, est déjà budgété.
Voilà. Alors, il est déjà budgété et d'ailleurs, la prime d'activité, on avait surestimé le non-recours parce que finalement, il y en a eu moins que prévu. Donc, ça a coûté plus cher que prévu. Et donc, ça a soutenu un peu mieux les revenus des ménages. Donc, effectivement, s'il s'agit avec le dispositif du prélèvement à la source de faire des choses plus justes et de supprimer un problème qui est quand même très sérieux avec le RSA et la prime d'activité, qui est le problème des indus, c'est-à-dire que au moment des mises à jour de leur situation, les allocataires se rendent compte qu'ils ont un trop perçu. Et donc, ils doivent rembourser la CAF, mais le problème, c'est qu'on a affaire à des ménages pauvres qui dépensent tous leurs revenus. Et donc, en ce sens-là, une automatisation serait intéressante, mais il y a une autre question qui se pose dans le projet du futur revenu universel d'activité, bon, qui n'est pas vraiment un revenu universel, qui est celle d'une supposée harmonisation du dispositif. En réalité, il faut savoir que s'il y a beaucoup de minima sociaux, c'est aussi parce que les besoins sont complexes. Et donc, les personnes handicapées, elles n'ont pas les mêmes besoins, les familles monoparentales non plus. Et c'est vrai que il faudrait pas essayer de gommer cette diversité des besoins avec un seul dispositif. Et enfin, revenu universel d'activité, il y a à nouveau la question de l'activité. Et il me semble que dans les déclarations du président, il y avait cette idée qu'on ne pourrait pas refuser deux offres raisonnables d'emploi. Et donc, là se pose la question des sanctions aux allocataires du RSA ou aux allocataires de minima sociaux. Et ça, c'est très problématique parce qu'on a affaire à des revenus qui sont familialisés, qui sont en fait des revenus conçus pour permettre de faire vivre des familles. Et qu'est-ce qui se passe si un adulte refuse un emploi, peut-être parce qu'il est situé trop loin, peut-être parce qu'il permet pas de s'occuper de ses enfants, peut-être parce qu'il pose problème relativement à des problèmes de santé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toute la famille est privée de revenus? Donc, il y a quand même un certain nombre de questions qu'on peut se poser quant à la réforme qui se profile.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion supplémentaire à avoir, peut-être, sur ce que l'on entend par le travail? Le travail, ça n'est pas toujours le travail, on va dire, dans le secteur marchand. Il y a la qualité de l'emploi, mais le travail, ça n'est pas toujours de l'emploi d'ailleurs. C'est-à-dire, on peut ne pas être en emploi, on peut être demandeur d'emploi et travailler. Je pense par exemple à la question du bénévolat. Il y a énormément de gens qui sont dans des associations et qui travaillent aussi. Il y a eu cette initiative, et j'aimerais avoir votre avis, mais je voudrais d'abord vous faire écouter un très court reportage d'un RSA bénévolat. Ça a été lancé notamment dans le département du Haut-Rhin, mais aussi dans une commune de la Somme. Alors, vous me direz juste après. Écoutez, c'était en 2016 et nous sommes dans le département de la Somme.
Annie Revel est au chômage depuis 5 ans. Désormais, 3 demi-journées par semaine.
La chasse aux déchets.
Elle ramasse les déchets de la plage sans être payée. Du bénévolat en contrepartie du RSA, elle a tout de suite accepté la proposition du maire.
On en veut, quoi. Comme ça, on dit pas, oh, reste chez elle, ou allez au RSA, elle fout rien. Mais non, on se rend utile, on fait voir comment on est courageux.
Remettre un pied à l'étrier, mais aussi changer l'image des allocataires du RSA, c'est l'objectif de cette opération de la mairie de Cailleux-sur-Mer. Ils sont 26 bénéficiaires du RSA sur 115 à avoir accepté la proposition du maire de la ville.
C'est-à-dire que je leur tends la perche en disant, on se lève le matin, on apporte pour la collectivité, pour la propreté de la ville.
Pour récompenser les bénévoles, le maire tente de trouver des emplois dans les entreprises de la région. Avec une promesse, les allocataires les plus assidus seront prioritaires pour décrocher ces nouveaux contrats de travail.
À l'extrait d'un reportage de France 2 de 2016, Daniel Le Guillou, à partir du moment où un dispositif comme celui-ci n'est pas obligatoire, comme ça avait d'abord été imaginé dans le Haut-Rhin, et puis ensuite il y a eu des actions en justice, finalement ce dispositif existe, mais il est sur la base du volontariat. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant, ce RSA bénévolat? C'est-à-dire, oui, vous touchez des aides, mais en échange, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez apporter une aide à la communauté.
Écoutez, moi je me situe pas sur ce terrain-là. Enfin, nous situons pas sur ce terrain-là parce que ça revient à stigmatiser une partie de la population. Et en fait, c'est pas ça le besoin. En tout cas, c'est pas ça le besoin qui ressort de l'expérimentation telle que nous la vivons aujourd'hui.
Bah, ça peut être un besoin personnel, c'est-à-dire de se dire au moins on se sent utile. C'est ce que dit la dame qu'on entendait dans le témoignage.
Tout à fait. Mais nous, dans les 10 territoires, dans les 10 territoires et dans les 140 qui se préparent pour la deuxième étape de l'expérimentation, nous rencontrons surtout d'urgence économique et d'urgence sociale. Et c'est à celle-là qu'il faut répondre d'abord. Et le RSA, ne répond pas à l'urgence économique. C'est insuffisant, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et je vais revenir tout à l'heure sur la question de la mobilité. Je ne sais pas si on mesure aujourd'hui ce que ça veut dire que les freins à la mobilité sur les territoires. À Thiers, par exemple, avec Paul Thiers, dans cette entreprise à but d'emploi, la première formation que nous avons faite, c'est la formation au permis de conduire. Et sur 30 salariés au départ, il y a eu 12 personnes qui étaient candidates à cette formation. Vous voyez? Donc c'est ça le premier frein à mobilité. Et par ailleurs, au moment où on parle de transition écologique, de relocalisation des emplois et des activités, on voudrait accélérer la métropolisation et faire en sorte que des emplois soient créés autour des métropoles, comme c'est le cas aujourd'hui. Non, je pense que là, on fait fausse route. Et de ce point de vue-là, Territoire Zéro Chômeur s'inscrit parfaitement dans une transition écologique et dans une relocalisation d'emplois.
Juste en un mot, parce que vous l'entendez, il y a le générique, c'est terminé. La suite de Territoire Zéro Chômeur, ça passe par une nouvelle loi?
Deuxième étape, effectivement, deuxième loi sur laquelle nous travaillons avec le Secours catholique, ATD Quart-Monde, Emmaüs, le Pacte civique et la Fédération des acteurs de la solidarité. 147 députés nous ont rejoints et il y a eu 200 territoires qui sont candidats. Voilà. Donc, Laurent Guillaume est le président de l'association et va également défendre cette loi auprès du gouvernement.
Et ben voilà, vous n'avez oublié personne. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Ça a passé très vite. Il y aura évidemment l'occasion de refaire des débats sur cette question. Daniel Le Guillou, Anne Edou et Stéphane Carcillo. Émission que vous pouvez écouter sur notre site internet franceculture.fr, la page du grain à moudre. Merci à l'équipe du grain, Léa Capuano, Amélie Perrault, Camille Fouchard, Antoine Nulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyre et Legras, avec à la prise de son Audrey Guélil.